Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur les WAF. Sont-ils indispensables ou superflus? C'est la question que nous allons nous poser ce soir. Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonsoir.
Nicolas Ruff.
Bonsoir.
Sébastien Juria.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors, les WAF, indispensables ou superflus?
Johan, je crois que tu as ta petite idée sur la question, hein, toi qui en as vendu.
Pour moi, effectivement, c'est un équipement qui est maintenant indispensable. Mais il semble qu'ici, il y ait des personnes qui pensent que ce soit superflu. Donc, je vais d'abord laisser la parole, par exemple, à Sébastien.
Bah, tu dis que c'est bien, c'est indispensable, mais pourquoi c'est indispensable à part ton porte-monnaie?
Alors, c'est indispensable eh bien, pour protéger les applications web. Tu n'es pas sans savoir que les applications web sont relativement sensibles et qu'elles sont bien souvent développées sans prendre en compte les problématiques de sécurité et que pour autant, elles sont en production, exposées et que par conséquent, un équipement qui est capable de les protéger est donc indispensable.
Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi.
Ouais. C'est ton mot indispensable en fait. C'est le mot indispensable en fait. Je dis pas que c'est totalement inutile, mais pourquoi en fait tu, enfin. Si tu reprends un synonyme d'indispensable qui pourrait être, je sais pas, vital par exemple, obligatoire, pourquoi tu dis que c'est obligatoire ou vital? Il y a rien qui est obligatoire. C'est comme un firewall. Il y a le principe du no firewall qui existe. Il y a des gens qui s'en sortent très bien. Il y a des gens qui n'ont pas de WAF qui s'en sortent très bien. Donc, j'aimerais bien savoir où tu veux en venir par le mot indispensable en fait.
Alors effectivement, indispensable quand on a une application web relativement sensible avec donc des données derrière qui sont relativement sensibles et dont on ne maîtrise pas le développement.
Là, on touche le problème de fond parce qu'il est clair que l'idéal, ça reste pour avoir une bonne sécurité, d'intégrer la sécurité dans le développement de son application et d'avoir une application qui n'a pas besoin qui n'a pas besoin d'un WAF supplémentaire derrière. Donc le problème, c'est que le WAF, c'est quand même le palliatif au fait qu'on se refuse à intégrer la sécurité dans le développement des applications.
Bah, oui et non, parce que c'est vrai qu'un WAF peut limiter les risques sur les problématiques d'applications mal développées, mais tu as aussi, par exemple, des problématiques qui sont liées au serveur HTTP, que le WAF est capable et le WAF est aussi capable d'apporter une protection dans ce domaine. Donc même si tu as développé ton application correctement en sanitisant les inputs, en faisant attention à tout cela, eh bien t'es pas à l'abri par exemple d'un shell shock, d'une vulnérabilité comme SlowLoris qui a fait pas mal de dégâts il y a quelques années. Et donc un WAF peut aussi permettre de limiter le risque dans ce contexte.
Oui, mais à ce compte-là, le WAF, il peut aussi avoir des tas de problèmes et de failles de sécurité. Il n'aura pas le serveur web ou l'équipement frontal de répartition de charge ou je ne sais quoi qu'on met devant.
Ah, c'est effectivement un risque. Alors, ceci dit, quand même, les gens qui réalisent des WAF font très attention à cette partie sécurité.
Parlons-en de ces gens-là. Des éditeurs de WAF qui sont en même temps éditeurs de load balancer qui ne sont pas capables de tenir la charge. Alors, je ne vais pas...
Non, tu ne vas pas. Tu ne vas pas citer de nom, c'est ça? Non, tu ne vas pas citer de nom.
Non, si tu as entendu un nom, ce n'est pas moi. J'ai juste dit que ça existait. C'est vrai que on a des gens, clairement, qui ne tiennent pas la charge sur le WAF, alors qu'ils tiennent très très bien la charge au niveau du côté réseau load balancing. Donc je suis pas totalement d'accord de toute façon et je pense je serai plus du côté d'Hervé. Maintenant, Il faut voir, il y a quelque chose qui a été très bien foutu, à mon sens, par le WASP Germany il y a quelques années. Ils ont fait une matrice très intéressante sur les bénéfices du WAF, c'est-à-dire, grosso modo, est-ce que tu en as besoin en fonction de ton application. Alors, sur une application boîte noire, genre tu prends un SAP, par hasard, par exemple un SAP, hein, ça pourrait être un autre truc... plus ou moins, je dirais, troué. Tu prends un SAP, ce SAP, tu l'exposes, tu mets devant un WAF, tu as un gros bénéfice parce qu'en fait, tu maîtrises rien dans SAP et effectivement, tu pourras pas couvrir ou très difficilement les vulnérabilités de ton SAP avec ce que tu as fait développer avec les millions de consultants à côté. Dès qu'il sera exposé. Par contre, tu développes en interne, tu maîtrises ton développement, tu maîtrises tes développeurs, tu maîtrises le code, tu n'as quasiment pas de bénéfice d'avoir un WAF. Parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir, et même si les éditeurs réagissent très rapidement, à mon sens, lorsqu'il y a une vulnérabilité, tous ceux qui vendent des WAF sont plus ou moins vulnérables à la vulnérabilité qui va sortir par rapport à leur WAF. Si tu regardes les dernières failles SSL et tout ce que tu as cité, il y en a plus d'un qui a sorti un patch en urgence pour combler la vulnérabilité.
Bien sûr.
Donc, l'un dans l'autre, ton mot indispensable, on en revient toujours au même sujet.
Bon, alors, indispensable et peut-être excessif, puisque effectivement tout dépend du contexte. Mais si je reprends ton exemple là de vulnérabilité qui survient par exemple sur de l'OpenSSL, ce qui est relativement fréquent ces derniers temps, eh bien si tu as un WAF et que l'éditeur propose rapidement un correctif, eh bien tu as un équipement à patcher et derrière tous tes serveurs web sont protégés ou du moins ne sont pas vulnérables. Et tu peux prendre du temps si tu le souhaites, par exemple, pour patcher quand tu le souhaites, en sachant que immédiatement tu as une solution qui te permet de ne pas être exposé.
Oui, mais le problème, c'est que de toutes les manières, dès que tu as plein d'applications à droite, à gauche, bon, ben, c'est très difficile d'intégrer la sécurité dans toutes ces applications. Mais de toute façon, comme c'est chaque département qui les a fait faire à droite, à gauche, il les a fait aussi héberger à droite, à gauche. Et donc, si c'est jamais avec un peu de chance des contraintes, des obligations de sécurité, c'est malheureusement avec des produits différents, des endroits différents. C'est pas un WAF qui va te protéger de toutes tes applications.
Sauf s'il est in the cloud.
Ah oui, le WAF dans le cloud.
Effectivement. T'as des gens qui vendent des WAF uniquement in the cloud.
T'en as même plusieurs, mais c'est la tendance de dire tiens, tu rediriges tes entrées vers mon CDN ou vont à mon système à moi, et puis moi je me charge de.
Bien sûr.
Au CDN, Nico.
Non mais.
Content Delivery Network.
Oui, et WAF Web Application Firewall, puisqu'on.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, on est. Non mais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'on va faire héberger à droite et à gauche les saloperies, et l'un dans l'autre, c'est un moindre mal, effectivement, le WAF. Le WAF est un moindre mal, il est potentiellement utile, mais il est là pour attendre, pour te permettre d'attendre de corriger plus en aval, en fait, à mon sens. Parce que le cas, oui, t'as qu'un seul truc à patcher, etc., c'est bien chez les bisounours. Mais quand tu regardes l'infrastructure au final, si ça se trouve, tu vas avoir un boîtier qui fait load balancer, tu vas avoir un autre boîtier qui fait terminaison SSL, et puis ta terminaison SSL, c'est pas OpenSSL, et puis comme t'as une terminaison SSL, tu t'embêtes pas à refaire du SSL vers ton serveur web parce que on t'a dit que ça prenait du CPU, de la bande passante, tout ça. Donc au final, ton WAF ne servira pas à grand chose sur OpenSSL. Par contre, oui, il te servira probablement parce que t'as un développeur qui a oublié de sanitiser correctement ses sorties ou ses entrées. Voilà. Mais l'un dans l'autre, ça sera pas indispensable. C'est, à mon sens, c'est du confort en fait.
En fait, Web Application Firewall, c'est comme les firewalls, quoi. Ça a probablement été indispensable il y a plusieurs années. Maintenant que tout passe par le port 80, les firewalls sont plus indispensables. Plus personne s'amuse à configurer des ports pour filtrer tel ou tel service ou tel protocole. Et le WAF, c'est pareil. Tu parlais de SAP tout à l'heure. On va plutôt citer un ERP d'entreprise, puisqu'on a, on va pas citer de marque. Mais je te mets au défi d'écrire une règle dans ton WAF pour filtrer correctement ce genre de trafic.
Ah, je... D'accord.
Alors peut-être, Nicolas, en fait, tu penses WAF, tu fais le parallèle directement avec le whitelisting.
Non, non, pas seulement. Je te dis que les technologies qu'on a en matière de WAF, c'est comme celles qu'on a en termes d'IDS ou d'antivirus ou autre. C'est-à-dire que le temps entre le moment où le problème apparaît et le moment où un produit s'est imposé plus ou moins comme le leader du marché ou du moins tu as une offre qui tient la route, il s'est passé tellement d'années que le produit ne répond plus au problème qu'il y avait il y a 5 ans, ou il y a 8 ans, ou il y a 10 ans. Et le WAF, ça répond au problème d'injection SQL où tu mets un guillemet dans les URL. Mais aujourd'hui, où tout le monde fait du JSONP, sur SAP, ils ont leur protocole de compression propriétaire, tu as des injections dans les cookies, des trucs comme ça, ou tu as du XSE, enfin tout ce qui est XML, External Entity et autres. Comment tu vas gérer ça dans ton WAF qui cherche encore des guillemets, quoi?
T'as des WAF qui font du XML, hein.
Oui, exactement. Ouais. Et JSON aussi.
Ouais, ouais. Est-ce qu'ils le font ou est-ce qu'ils le font bien?
c'est de nos biens après, effectivement. Moi, à mon sens, effectivement, Nico, t'as en partie raison. Parce que c'est clair que on va avoir du mal dans certains WAF à probablement bloquer un certain nombre de choses. Parce qu'en fait, quoi qu'on en dise, il y a réellement deux modèles en fait dans le WAF. Il y a la liste blanche et il y a la blacklist. On sait que la blacklist ne marche pas. Ça, on sait qu'elle ne marchera jamais. Et la liste blanche, elle va être trop chiante à mettre en œuvre. Même si il y a des WAF qui font l'auto-apprentissage ou tout ce que l'on veut, la whitelist, elle va être galère à monter en fait. Parce qu'il va falloir vraiment que tu détailles tout ce que tu veux. L'auto-apprentissage, bah, c'est bien beau, mais il y a bien un moment où il va falloir mettre un bonhomme pour dire « Ok, ça je laisse passer, ça je laisse pas passer. » L'un dans l'autre, ça va être capable effectivement de bloquer, à mon sens, des attaques entre guillemets inconnues sur des types de peut-être de framework ou de protocole ou de choses qui vont s'échanger. Mais c'est tellement galère que tu t'aperçois que la liste blanche, la plupart du temps, tu n'y arrives pas, quoi. Tu t'en sors pas. Donc, tu repars sur un principe de plus ou moins de blacklist, en fait. Oui. Et là, je rejoins Nico, effectivement, on retombe dans les problématiques où on va chercher, entre guillemets, ce qu'on connaît et pas ce qu'on ne connaît pas.
Mais sans parler de la blacklist ou de la whitelist ou de l'apprentissage ou des, je sais pas comment on appelle ça, machine à état, intelligence artificielle et tout ce que tu veux, oui. Le problème de base, c'est juste parser. C'est-à-dire que tu reçois une attaque XXE, ça veut dire que ton WAF, il parse du XML. Et déjà aujourd'hui, entre le parseur X et le parseur Y ou autre, ils sont pas d'accord sur ce qu'est du XML valide. Et je te parle même pas de ce que c'est que la signature XML, le chiffrement XML et autres. Ah. Donc rien que le fait de pouvoir traiter ton flux et extraire l'information pertinente dans ton flux, ça me semble déjà être très compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le WAF, pour être générique, il doit embarquer toutes les stacks existantes. Il doit être capable de comprendre que derrière, ça va être du SAX qui va traiter ton XML ou des trucs comme ça pour pouvoir l'interpréter correctement.
Mais c'est le même problème que tous les antivirus, hein. Enfin, je veux dire, tu réencapsules le MIME dans XML qui lui-même réencapsule le ZIP, qui réencapsule... C'est sans fin de toutes les manières. Mais ça, c'est la limite universelle à toutes les techniques de firewalling, globalement, pas spécialement sur le web.
Oui, mais je crois qu'on a atteint un niveau de complexité tel que... Enfin, quand tu vois les... Après, je te parle même pas au niveau du transport avec des protocoles comme Quick, Speedy et autres, parce que là, finalement, ton WAF, quelque part, il est en terminaison de ses protocoles, donc il est quand même capable de réassembler. Mais même sur les attaques, la complexité des attaques que tu vois aujourd'hui, enfin, je sais pas, ton WAF, il va pas filtrer sur du DNS rebinding ou des trucs comme ça. Donc, ou sur un XSS persistant, je suis pas sûr qu'il le filtre non plus. Parce qu'il voit passer la requête dans un sens, pas dans l'autre. Ensuite, elle est stockée en base et l'admin se log et là, il voit la requête dans l'autre sens. Et...
Ah, mais non, le WAF dans ce contexte-là, il empêche justement l'injection du JavaScript au moment de. Avant qu'il soit persistant, quoi, avant qu'il soit dans la base.
Oui, mais cette écriture de JavaScript, elle peut être légitime. C'est-à-dire que tu peux avoir un forum de développeurs où tu as un morceau de code qui est correctement balisé. Sauf que si tu accèdes à la même page via une interface de debug, par exemple, là, tu as XSS parce que la page de debug va fetcher le contenu en base et ne va pas le rendre de la même manière.
Alors, c'est très rare quand même d'avoir dans les inputs de manière valide de pouvoir rentrer du code du JavaScript. C'est quand même très très rare. Donc, tu peux mettre en place justement, et là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Sébastien, quand tu dis que la blacklist... ça ne marche pas. En tout cas, les modèles de sécurité négative, certains moteurs ont une approche vraiment intéressante. Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas contournables, parce qu'effectivement, comme le soulignait Hervé, on arrive toujours finalement à pouvoir contourner. Mais on arrive à des niveaux de complexité tels qui font que finalement ton risque devient acceptable. Et finalement, c'est ce qui est important, faire en sorte que le risque devienne acceptable. Donc, les modèles de sécurité négative ne demandent pas d'apprentissage et ils permettent de se prémunir des cross-site scripting, surtout des injections SQL qui sont très très impactantes pour les entreprises. Et finalement, c'est ce qui est le plus important. Parce que finalement, dans le modèle de sécurité positive, la whitelist, c'est très très dur à mettre en œuvre. Et pour pouvoir la mettre en œuvre correctement, il faut que le process de génération de la whitelist soit fait par les équipes de développement.
Bah oui, il faut juste que l'appli soit développée correctement, quoi.
Ça résout pas le problème.
C'est de la spécification.
Non, je suis pas d'accord sur la whitelist. Sur la whitelist, si tu fais de la whitelist, ton appli elle peut être développée justement avec les pieds, puisque tu sais quoi attendre.
Ça, je suis d'accord, mais si l'équipe de développement qui développe avec ses pieds, c'est elle qui. ça sert quoi. Non mais qu'on soit d'accord, la whitelist, pour qu'elle soit pertinente, je suis d'accord, il faut qu'elle soit collée à la spec de ton appli en fait. Donc si tu as une spec correcte, il y a peu de chances que le développeur pompe de la merde.
Non, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que bien souvent t'as les gens qui développent et puis t'as les gens qui maintiennent et qui protègent. Et souvent, ce sont des entreprises d'ailleurs complètement différentes. Donc, tu te retrouves avec des applications que tu dois protéger et finalement, tu n'as aucun lien avec les développeurs. Et là, dans ce contexte-là, mettre en place une whitelist, surtout si le site web, si l'application évolue. Parce que quand l'application évolue pas encore, tu peux faire un gros effort pour réaliser réaliser ta whitelist. Simplement, quand ton application ne bouge pas, tu vas pas avoir dans le temps du faux positif. Parce que ce qui est gênant en fait dans la whitelist, c'est le faux positif qui va être occasionné lors d'un changement de l'application. Donc, si tu as une application qui ne change pas dans le temps, tu peux relativement facilement mettre en place une whitelist. Ça devient problématique dès que l'application commence à évoluer.
Ah bah ça c'est sûr, si ton application commence à bouger, ça va être le bordel. À partir du moment où tu as un WAF et que tu fais évoluer l'application, c'est le bordel. C'est le bordel.
Je veux dire, tout le monde fait évoluer ses applications, c'est le principe même des méthodes agiles. Hein.
Certains, ça bouge pas beaucoup quand même. Hein.
Et c'est pour ça qu'en fait, dans ce contexte-là, donc de la vie réelle où les applications évoluent relativement fréquemment, le modèle de sécurité négative, lorsqu'il est efficace, je mets un bémol là-dessus, c'est très important. Effectivement, une blacklist basique et pas très bien réalisée, c'est pas très très utile. En revanche, un moteur de sécurité négative bien réalisé, ça réduit considérablement le risque de manière efficace.
Ouais,
monsieur. Ce qui est important, c'est le ratio. C'est pas le risque, c'est le ratio coût-bénéfice. Parce que tu peux toujours réduire le risque, mais au bout d'un moment, si la maintenance de ton WAF elle te coûte plus cher que le développement de ton application, tu bannes l'application et tu en développes une autre.
Mais c'est là où, effectivement, on se rend compte très vite que le fait de former le développeur, d'apprendre au développeur à programmer directement, correctement, à ensuite apprendre aux gens qui font le contrôle qualité à programmer directement. Finalement, quand le développeur, tu lui apprends à intruser les applications web, il est piqué au vif et il a honte de se faire avoir aussi bêtement. Tu peux arriver à des résultats assez spectaculaires de l'ordre de 10, 20, 30, 40. C'est-à-dire que tu as 40 fois moins de failles de sécurité après la formation. Et finalement, en rapport coût-efficacité, lorsque les gens développent et maintiennent des applications sensibles qui manipulent typiquement des données à caractère personnel régulièrement, pour moi, j'ai toujours eu le sentiment que c'était le bon investissement. Le problème du WAF, c'est que c'était quand même un palliatif au début, uniquement dans le cas où tu étais dans des situations inextricables, où tu es coréen, tu es vietnamien, tu es grec, etc., ont développé un truc tout pourri localement. Et pour éviter et réduire les risques et éviter la catastrophe, tu mettais un WAF devant leur appli pourri. Mais on a pris cette habitude stupide de mettre des WAF partout et de plus faire la sécurité dans les applications. Et c'est ça qui me fait très peur, parce qu'en plus de ça, ça donne une impression de fausse sécurité. Les responsables ont l'impression d'être en sécurité parce qu'il y a un WAF. Et ça, vraiment, c'est terrible.
Mais c'est comme les gens qui cliquent sur toutes les pièces jointes parce qu'ils ont un antivirus.
Alors, le principal problème, en fait, c'est que tous ceux qui ont mis en WAF, ils l'ont mis parce qu'ils ont lu le PCI DSS qui disait que soit on développait sécurité, soit on mettait en WAF. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont un sentiment de sécurité.
Ça n'a pas évolué dans 3.0, ça ?
Ça a beaucoup changé dans 3.0. Hein. Maintenant, ils imposent vraiment...
Il y a des choses en plus.
Je pense que PCI DSS, ça justifie un sujet à lui tout seul.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment en train de déborder, là.
On va déborder, ça va dépasser. Indispensable, non. À mon avis, non.
J'ai toujours pas compris comment tu traitais le problème des ERP, parce que là, pour le coup, tu n'as pas un moyen de sensibiliser les développeurs, tu n'as pas les specs, tu te retrouves avec une boîte noire.
Mais moi, je ne mets pas mes ERP sur Internet. Hein.
Pas encore, mais...
Non, mais bientôt. Et puis, de toute façon, toi, tu as des consultants qui vont te soutenir tout ça, Hervé.
Non, mais tu as forcément tes ERP sur Internet. Ils ont produit des applications mobiles pour que les commerciaux de terrain puissent rentrer directement les leads. Donc, forcément, déjà, tu as des web API quelque part, et puis... C'est clair qu'à terme, tout va être détruit.
Comme diraient certaines personnes, tu mets pas un WAF, tu mets une API Gateway. C'est complètement différent. Tu mets pas la même chose. Ça fait du XML, ça fait du REST, ça fait du JSON et tout ce qui va bien, mais ça fait pas du WAF. Voilà. Non, mais c'est clair que pour sécuriser tes ERP, c'est à mon sens, c'est bien dans ces cadres-là. En dehors de ça, c'est plutôt...
Je sais pas, c'est quoi le ratio des applications d'entreprise développées en interne versus le ratio des applications achetées sur étagère sur lesquelles tu n'as aucun contrôle ? Ni sur les développeurs, ni sur les specs, ni sur... Parce que moi, quand je vois tous les produits que tu achètes aujourd'hui, ils ont une interface web. Webcam, téléphonie sur IP, imprimante... Non, mais tout ce que tu achètes aujourd'hui, ça a une interface web. Et c'est destiné à potentiellement à accéder à l'extérieur. Enfin, si tu commences à faire la téléconférence sur ton système de TOIP, etc. Et tous ces trucs-là, tu n'as aucune maîtrise. Donc, est-ce que tu les mets derrière un WAF ou pas ?
Mais pourquoi tu ne mets pas ta box ADSL derrière un WAF ?
Parce qu'elle est suisse. Et quand c'est suisse, c'est bien.
Non, c'est la box Swisscom, c'est du Motorola, en fait.
Non, mais ta réflexion est intéressante. C'est vrai que pourquoi tu la mets pas ? Tu mets pas toutes ces saloperies. C'est une bonne question à mon avis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même tous les trucs de domotique, etc. Je suis sûr que si on cherchait bien, il y aurait déjà pas mal qui sont accessibles par le net. Et au niveau sécu, c'est clair qu'ils sont à l'ouest. Donc on pourrait se dire qu'on les protège par un WAF.
Non, mais globalement, c'est le problème des objets connectés. Je veux dire, tous les objets connectés en santé, en tout ce que tu veux, c'est tous des interfaces web toutes pourries et de toute façon, il n'y aura jamais de WAF devant.
Non, mais il n'y a pas que les objets. Enfin bon, là, c'est aussi un épisode à part entière, mais je te parle dans une entreprise normale, Tu as une appli note de frais, tu as une appli congé, tu as une appli pour faire tes bookings d'avion, tes
machins. Ça a été développé, c'est fourni par un sous-traitant qui s'engage à la sécurité, qui l'a fait héberger. Enfin, je veux dire, ça t'intéresse pas à toi directement.
Ah bah, moi, je sais, quand on était sous le RP d'entreprise, tu tapais tes notes de frais, c'était pas hébergé à l'extérieur, quoi. C'était un développement spécifique, mais dans le RP.
Pour en revenir au WAF, votre conclusion, Hervé ?
Bon, le WAF, c'est quelque chose qui est quand même parfois utile, indispensable, et il faut faire l'investissement pour réduire les risques, parce que la situation l'impose. Maintenant, il ne faut pas oublier que la base, c'est justement de devoir se passer de WAF, de ne pas en avoir besoin, et d'avoir en œuvre le processus d'intégration de la sécurité dès ses appels d'offres, dès ses développements, dans le contrôle qualité à tous les niveaux, en formant et sensibilisant ses développeurs à une bonne programmation, une bonne conception des applications pour ne pas avoir besoin de WAF.
Pas que les développeurs, hein, la chaîne en fait, et la chaîne de développement. Si tu parles
absolument.
Le développeur,
le contrôle qualité, tout le monde. Ouais.
L'architecte, souvent le développeur, il sait comment développer de manière sécurisée, mais c'est pas qu'il fait de la sécurité en fait.
Nicolas ?
Moi, je pense que le WAF, c'est une technologie d'il y a 10 ans qui est encore utile pour protéger les applications d'il y a 10 ans.
Ok. Bon, bien, moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Hervé et Sébastien. Simplement, dans la plupart des cas, les entreprises n'ont aucun contrôle sur leurs applications web. Et dans ce contexte-là, elles ne peuvent en aucun cas influer sur la sécurité qui a été mise en œuvre ou pas pendant le développement. Et par conséquent, dans la plupart des cas, un WAF, si on a des données relativement critiques à protéger, est indispensable.
Non, pas indispensable.
Utile.
Ok, bon, eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast.
À bientôt.
Salut.
Au revoir.